Il
appelle
serpent, soi-disant bon, mais il était mauvais finalement.
Mais non, il n'est pas mauvais, il est le plus rusé. Il est le plus nu de tous les animaux. En soi, il n'est pas mauvais. C'est une créature. Vous voyez que le serpent symbolise quelque chose dans la création, de nouveau, hein? Il est quelque chose de bon dans la création, il dit que c'était bon. Quand il a fait les animaux, il a dit que c'était bon. Il n'a pas dit, c'est bon sauf. Mais voilà, il est rusé. Qu'est-ce que c'est qu'un animal rusé? Et pourquoi le serpent? Le serpent a la langue double, hein? On le dit aussi dans les psaumes. La langue double. D'où vient cette duplicité? Le serpent, dans les cultes cananéens, le serpent est un animal ambigu. Et un animal qui symbolise la mort et la vie. Effectivement, son venin donne la mort, et avec son venin, on peut aussi fabriquer un antidote, le caducé, hein? Donc on l'a dans le serpent d'Hippocrate, hein? Vous voyez? Alors, c'est un animal ambigu, vie-mort. Et les cultes cananéens symbolisent cela par un serpent sur un bâton. D'où l'histoire du serpent d'Airain, de Moïse. Donc c'est un vie-mort. Mais vie-mort, c'est le destin de l'homme. Il est venu à la vie et il va vers la mort. Mais oui, le serpent va symboliser le destin de l'homme qui se pose la question de sa vie et de sa mort. Qu'est-ce qui est vie, qu'est-ce qui est mort? Parce que la mort, si l'homme est créature, il n'est pas éternel en lui-même, il doit manger, donc pour manger ça veut dire qu'il doit refaire ses forces, ça veut dire qu'il les paie. Et dès l'instant où il devient une cellule autonome, un être humain, à partir de ce moment-là, il commence à être attaqué par la puissance de mort. Et toute sa vie, l'homme doit lutter contre la mort. Et donc, vous voyez bien que le serpent va symboliser l'homme face à son destin. Il dit Dieu, Yahvé le Seigneur, Yahvé Dieu, il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Il l'a fabriqué double, il ne faut pas qu'il soit seul. Hein? Donc, vous voyez, nous connaissons déjà, chapitre 1, verset 26, nous savons déjà qu'il l'a fait mâle et femelle, hein? Nous connaissons déjà. Mais ici, on repart à nouveau frais, et on dit la solitude n'est pas bonne. Tiens, ça aurait peut-être quelque chose à voir avec le manger du connaître, hein, de l'arbre du connaître, bon et mauvais, être seul. Et comme le dit, je crois aussi que c'est Saint Grégoire de Nice, il dit que sinon, si l'homme n'est plus vis-à-vis de Dieu et n'est plus vis-à-vis de la femme, il devient, comme ils disent, autophage, autophagos, c'est-à-dire il se mange lui-même. Il devient autophage, il est seul. Il est seul. Quand l'homme veut fabriquer ce qui est bon et ce qui est mauvais à partir de lui-même, il devient seul. Il est en quelque sorte le maître. Il est comme un dieu. Il doit déterminer, quelle responsabilité terrible, il doit déterminer à lui-même les choses. Donc il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Attendez, il faut voir le petit raisonnement de ce texte. Donc, qu'est-ce que la solitude? La solitude, c'est l'enfermement en soi, c'est ne plus être devant quelqu'un. Mais est-ce qu'il est devant Dieu? Oui, mais Dieu a disparu de la circulation. Pourtant, il dit Dieu, on ne sait pas à qui il le dit d'ailleurs. Hein? Est-ce qu'il se dit à lui-même? C'est possible. Il n'est pas bon pour l'humain, alors qu'il a dit que tout était bon. Il trouve maintenant qu'il n'est pas bon pour l'humain d'être seul. Donc la solitude, c'est pas bon. Pour l'humain, en tout cas. Je ferai pour lui une aide comme son vis-à-vis. Ezer Kenekdo. Étrange. Voilà que Dieu parle je. En je. Il dit je. Il avait dit faisons. Notre. Maintenant, il dit je. je ferai pour lui une aide. Le terme aide, il a été très bien étudié par le père Jean-Louis K. dans un très bel article qui a paru dans la Nouvelle Revue Théologique, je crois, il y a quelques années. Et il a été cherché ce que le mot Ezra, aide, veut dire dans toute la Bible, évidemment, pour voir un peu quels étaient les passages auxquels on pouvait comparer ce texte. Et le mot Ezer, aide, est encore un mot du langage sacré, disons, sacerdotal. Et on parle de aide, le terme qu'il utilise ici, comme l'aide que Dieu donne. C'est lui qui est notre aide, notre soutien. Ce n'est pas l'aide, on se sert d'un instrument, comme une aide par exemple, ou d'un animal qui aide au travail des champs. Non, non. Aide, c'est toujours un don de Dieu et généralement Dieu lui-même. C'est Dieu qui est une aide. Et un aide qui est comme son vis-à-vis, kenegdo, comme un en face d'eux. Intéressant qu'on ne dit pas compagnon, par exemple, qu'on ne dit pas, oui, vis-à-vis ou peut-être recouvert par le terme partenaire, oui. Mais donc, quelqu'un en face duquel il se situe. L'homme tout seul, l'homme qui ne se situe pas par rapport à quelqu'un, est perdu. C'est pas bon. Ce n'est pas selon le plan de Dieu. Et il modela, le Seigneur Dieu, hors de l'humus, toute vie du champ, tout volatile des cieux. Ben, il va lui faire une compagnie animale. Parce que l'homme est aussi animal, on l'a vu. Et il les fit venir vers l'humain pour voir comment il appellerait. Et tout ce que lui appellera l'humain, à un être vivant, tout ce qui criera à un être vivant, ce sera son nom. Donc, l'homme peut donner le nom à tous ces animaux. Et ils sont modelés de la même nature, de la même argile que l'homme. Donc, vous voyez, on souligne ce caractère animal encore de l'homme. L'homme sort de l'animalité. Il ne faut pas le croire meilleur qu'il est. Et donc, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Quand Enkidu était seul aussi dans l'épopée de Gilgamesh, il était avec les animaux. Il vivait animalement, dirons-nous. Quand il a découvert la femme, la courtisane avec qui va lui enseigner l'amour, il a découvert l'autre. Et découvrant l'autre, il est devenu supérieur aux animaux, il a pris conscience qu'il était supérieur aux animaux, et il est devenu un homme, véritablement un homme. Et donc, il y a ça qui joue dans le texte. Et donc, l'homme peut désigner les animaux par un nom, et ce nom exprime ce que l'animal est, pas à son niveau en tout cas. Et il appela l'humain des noms à tout le bétail, aux volatiles des cieux et à tout vivant du champ. Donc c'est lui qui instaure un dictionnaire zoologique. Mais à l'humain, mais pour l'humain, il ne trouva pas une aide comme son vis-à-vis. Mais ça ne le satisfait pas. C'est un cadeau de Dieu, déjà. Puisque c'est Dieu modèle spécialement pour l'homme. Tous ces animaux qui sont compagnons de l'homme, mais qui ne sont pas comme son vis-à-vis, qui ne sont pas aides comme son vis-à-vis. Et alors, il y a cette chose étrange, il fit tomber, le Seigneur Dieu, une torpeur sur l'humain. Cette torpeur que vous voyez revenir, par exemple, au moment où Dieu fait alliance avec Abraham, une sorte de léthargie, une sorte de suspension de la réalité consciente de l'homme, et il s'endormit. Et c'est utilisé, ce terme de torpeur, tardema en hébreu, est utilisé lorsque on veut montrer qu'il y a une inconnaissance de l'homme. L'homme ne sait pas, c'est une limite à sa connaissance. Il ne sait pas d'où il vient. Nous avons une expérience, mais dont nous ne sommes pas conscients de notre naissance, de notre formation dans le sein de notre mère, et nous n'avons pas conscience de la raison pour laquelle l'humanité est homme-femme. Je ne connais pas la raison profonde de la distinction entre, dans l'humanité entre hommes et femmes. Il prit une de ses côtes. Comme je vous le disais ce matin, la côte est la réalité ferme. Il prend quelque chose de ce qui le rend ferme, de sa structure interne. Et il ferma la chair à sa place, donc il la prend, il tire en quelque sorte quelque chose de l'homme, de l'humain, jusqu'ici on a parlé de l'humain, et il construisit le Seigneur Dieu, donc ce qui veut dire que c'est lui qui le fait, ce n'est pas d'une autre nature que l'humain, donc ça vient vraiment de l'homme, ça vient pas de l'animal, il n'a pas formé d'une autre sorte d'argile, mais de l'homme lui-même, de l'humain lui-même. Donc ce qui veut bien dire, la même réalité, nous n'avons pas autre chose. Modeler les animaux, c'est autre chose. Même s'il y a une animalité dans l'homme. Il ferma la chair à sa place et il construisit le Seigneur Dieu, la côte qu'il avait prise de l'humain, en femme. Donc ce n'est pas, comme le disent quand même certains rabbins, comme si l'homme avait été créé androgyne, et comme s'il le coupait en deux, il prend un morceau, un côté, hein, côte, côté, hein, il en prend un côté, et il en fait une femme face à l'autre côté, qui serait une réalité humaine. Ça, ça va plus loin que ça, c'est plus profond que cela.
Quelle dimension avait cette côte ?
Ah, ça, non, c'est... Là, une question insoluble. Ça, c'est encore un autre. Est-ce que l'homme en manque d'une par rapport à la femme? Ça ne semble pas quand même. Hein. Vous voyez que c'est encore une manière de parler. Dire à quelqu'un, tu es ma côte, ou tu es mon côté, hein, ça veut dire, tu es mon pote là. Hein. Tu es vraiment quelqu'un comme moi, tu es mon ami. Il est parti de cette expression-là sans doute, oui. Pardon? Ah ben voilà. Eh bien, tombons dans le sommeil. Nous ne saurons pas. Ce que le texte veut dire, en tout cas, c'est de la même réalité que l'homme. Ce n'est pas d'autre chose. Donc, c'est pour empêcher de dire qu'il y a une supériorité de l'un par rapport à l'autre. C'est la même réalité fondamentale, substantielle en quelque sorte, oui.
Le cardinal Danès, étudiant ce texte, voit dans la torpeur le fait que quand l'homme se réveille, c'est pas lui qui l'a construite.
Évidemment.
Et donc elle est d'emblée cadeau de Dieu.
Tout à fait.
Donc on est cadeau de Dieu l'un pour l'autre.
Tout à fait.
Ce n'est pas ma fabrication.
Tout à fait. Il reprend d'ailleurs ce que dit le pape dans la dignité de la femme. Oui.
Je me demande s'il n'y a pas une autre explication, c'est-à-dire est-ce que ce récit-là, dans cette tradition, elle n'est pas non plus pour contrer la culture grecque qui fait de la femme une déesse qu'une terrestre, et de montrer que la femme vraiment de la chair de l'homme, même solidarité.
C'est bien possible aussi. Je ne sais pas si ce texte a pu, hein, dans son origine première, a pu se référer à la culture grecque, hein, parce qu'il est antérieur. Si c'était un texte d'après l'exil, je dirais peut-être oui. Ici, c'est peut-être difficile. Mais ça n'est peut-être pas étranger, en tout cas.
Mais est-ce qu'on peut penser aussi que la femme étant vraiment la même substance que l'homme, je dirais, leur descendance est par le fait même d'une même substance, et que sacrée, tout l'avenir de l'humanité.
C'est évidemment porteur dans le texte, après certainement, ça apparaît comme ça, c'est bien sûr. Mais on veut dire qu'il n'y a pas deux sortes différentes. Le sexe est une réalité humaine de même espèce. On parlait d'espèce tout à l'heure, oui.
J'ai lu quelque part, je ne me souviens plus.
Oui.
Qu'on traduisait homme et femme, il le créa.
J'ai pris le texte hier. D'abord, il dit Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Masculin et féminin, ou mâle et femelle, il les créa. Et le texte doit être gardé tel qu'il est. Il ne faut pas le changer. Oui, mais c'est une traduction littérale. Et la littéralité veut dire quelque chose. Celui qui a composé, autrement dit, savait très bien pourquoi il mettait un singulier ou un pluriel.
Parce qu'ici, justement, faisons l'homme, notre image, comme notre ressemblance. Et qu'il domine au pluriel.
Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Et qu'il domine au pluriel. Donc il prend bien l'homme. Ah oui. Donc c'est que c'est un pluriel qui est l'image de Dieu. Ça, c'est le premier texte. Ici, il explique les choses un peu autrement. Hein? Il explique comme une naissance, une origine. Et ils ont même origine, c'est pas deux argiles différentes, autrement dit. Hein? C'est vraiment la même réalité. C'est pour ça qu'ils peuvent être un. Si c'était une argile différente, ils ne pourraient pas être tout à fait un. Et il construisit, donc il y a une construction, la côte qu'il avait prise de l'humain en femme, et il la fit venir vers l'humain. C'est lui qui fait tout. Et comme le disait Pierre, c'est très important que ce n'est pas l'homme qui le fabrique. Oui ?
Pourquoi est-ce qu'on dit encore avec l'humain ?
Ah ! Parce que l'homme n'a pas encore reconnu, n'a pas encore parlé. Encore parlé. C'est précisément ça qui va lui donner la parole. Jusqu'ici, il a nommé. Il a nommé des animaux. Et il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Et maintenant, il va reconnaître. Parler pour l'homme, ça va être une reconnaissance. Qu'est-ce qu'il va reconnaître ? Et le texte avance. Ici, vous avez justement ce qu'on appelle un texte, un récit. Et donc, alors que dans le premier texte de la Genèse, il n'y avait pas un récit, en fait. On vous donnait un calendrier, mais ce n'était pas un véritable récit. Et il dit, et une fille, etc. Ici, on voit quelque chose qui avance. Un récit, c'est toujours dire à quelqu'un un chemin qu'il a à faire. Quand je raconte quelque chose à l'enfant, je le fais passer par des différents stades. Il va s'approprier le récit, il va se retrouver dans le récit, mais c'est pour lui faire faire un chemin intérieur, un chemin qui est d'ailleurs dialogal. Ce récit est dialogal. C'est l'auteur qui dialogue avec le lecteur que nous sommes. Il construisit, il fit venir vers l'humain, et il dit l'humain, celle-ci, cette fois, il a déjà passé en revue tous les animaux, ça va pas, celle-ci, cette fois, zotapam, os de mes os et chair de ma chair. Ici, ça colle. Ça va ensemble. C'est du même niveau. Os de mes os et chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié. Il ne dit pas « je vais crier ». Vous voyez qu'il n'a pas encore dit « je » non plus. Il a dit « os de mes os, chair de ma chair », comme Dieu avait dit « notre image, notre ressemblance, ma ». Il dit « ma ». À celle-ci, il sera crié. Quand on utilise ce terme, comment dirais-je, au passif, hein, cette forme au passif, c'est généralement ce qu'on appelle dans la Bible un passif divin. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui appelle, c'est Dieu qui l'appelle. En me faisant venir, hein, il appelle. Elle sera appelée femme, il a dit le mot, c'est lui qui avait distingué femme, on a dit que l'humain, hein, avait pris l'humain et l'avait construit en femme, et lui reconnaît cette réalité-là. À lui sera écrit femme, car d'homme fut prise celle-ci. On va vous faire un petit cours d'hébreu. Femme se dit en hébreu Isha. Isha. Si vous voulez mettre les voyelles, Isha, voilà. On ne met pas les voyelles généralement. Aleph, première lettre de l'alphabet, Shin, hein, l'avant-dernière, et He, Isha. L'homme se dit Ish. Ça vient, tous les deux viennent de la même racine, Enosh, qui veut dire le faible, le vulnérable, hein, le faible. L'homme ou la femme, vulnérable. Alors, vous voyez, les rabbins disent, tiens, qu'est-ce qui est semblable dans l'homme et la femme? Voilà. Vous voyez que dans l'homme et la femme, il y a un aleph et un shin, un aleph et un shin. Qu'est-ce qui est semblable dans l'homme et la femme? Aleph, shin. Or, il se fait que aleph, shin, ça veut dire quelque chose en hébreu. Ça veut dire esh, le feu. Qu'est-ce qui est semblable dans l'homme et la femme? Le feu. Mais quel feu? Qu'est-ce qui est feu dans la Bible? C'est Dieu. La réalité divine est feu. L'amour de Dieu. L'amour est semblable dans l'homme et la femme. C'est lui qui en fait l'unité. L'amour qui est Dieu, qui donne la femme à l'homme. Qu'est-ce qui est différent dans l'homme et la femme? Ah, vous voyez. Yot et He. Yot, He. Et on fait Ya. Ya, c'est le nom. C'est le diminutif de Yahvé, si vous voulez. Ya, c'est Dieu. Mais Dieu, selon son nom propre. Qu'est-ce qui est semblable dans l'homme et la femme? C'est le même amour, c'est le même élan, c'est la même origine. C'est la même origine qui vient. Dieu lui-même. Qu'est-ce qui est différent? La personnalité que Dieu donne par son nom propre. Dieu distingue chaque unique. L'homme et la femme sont uniques. Don de Dieu aussi. Mais ça, c'est la manière dont les rabbins font de la théologie. Ils le font à partir des lettres.
Et ils disent aussi que si on enlève le Ya, il ne reste plus que le Esh.
Ah oui, si on n'en voit qu'un, on risque de manger de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est justement ça. On oublie l'origine. Alors vous voyez pourquoi Marie Balmary, pour ne pas la nommer, hein, qui est psychologue, psychanalyste aussi, a écrit ce livre, La Divine Origine, et en sous-titre, Dieu n'a pas créé l'homme. Et il a tout à fait raison. L'homme et la femme qui se créent, qui découvrent ce qu'ils sont, un « je » par rapport à un « tu ». Dieu a créé l'humain. Et elle discute avec son groupe, là, hein, elle discute le texte lui-même, en montrant la vérité et en comparant avec son expérience psychanalytique et en voyant justement combien ce texte est extrêmement précis et dit des choses qu'elle retrouve dans son expérience psychanalytique des hommes et des femmes.
Et ça complète son livre, Le Sacrifice d'Intérêt.
Oui, C'est-à-dire, ça complète, c'est une autre, un autre type de réflexion. Hein? Mais c'est toujours hein, la réflexion sacrifice interdit, c'est à partir de l'Édipe, évidemment, hein, qu'on réfléchit. Ici, c'est à partir des relations, et souvent des relations faussées, hein, relations entre hommes et femmes, et relations aussi de maternité, d'avortement, etc. Hein? Elle analyse l'expérience d'un certain nombre de personnes, et la divine origine, Dieu n'a pas créé l'homme, Paris Grasset, 1993 ou 93.
Merci.
Voilà.
Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est la parole qui engendre l'homme?
Que
c'est la parole qui engendre l'homme.
Oui. Oui. Et une certaine parole, pas n'importe laquelle. Pas seulement une parole qui nomme de l'extérieur, mais une parole qui est reconnaissance. Ici, vous voyez, c'est la contemplation, en fait. Ici, l'homme contemple cette fois, hein, os de mes os et chair de ma chair, et il peut donner un nom en disant ici, le nom colle. Ce n'est pas comme le nom que je donne aux animaux, je l'impose. Ici, c'est une reconnaissance. La reconnaissance du bien fondé du travail de Dieu. Donc c'est quelque chose de très beau là. C'est la femme par son être qui donne à l'homme d'accéder à la parole et une parole de contemplation. Pas une parole de jugement, oui c'est un jugement si vous voulez. Un jugement de reconnaissance, mais qui est la véritable contemplation, l'acceptation de ce qu'elle est pour lui. Et donc de ce qu'il est lui, car il vient en second. Femme, homme, oui, tenez-vous.
Parce que la femme est sexuée et dégradée, verset 22, et l'humain ne l'est pas même après.
L'humain ne l'est pas même après, parce que... Oui, oui, c'est pas ce qu'il veut dire quand même, quand il utilise l'humain... Ce n'est pas seulement l'homme distingué de la femme, c'est pour ça que le mot est différent. Oui. Ici, vous avez Ish et Isha quand on parle de femme et homme. Quand on parle d'humain, on a toujours en vue la collectivité, l'humanité en elle-même. Hein. Et l'homme et la femme sont aussi humains l'un que l'autre. À l'intérieur de l'humain, il y a l'homme et la femme. C'est vrai qu'après, hein, on pourrait dire en toute logique, il faudrait après qu'on dise l'homme et la femme. Mais non. Parce qu'on veut considérer de temps en temps l'homme suivant son rapport hein, sexué à la femme, et de temps en temps, on l'utilise encore, même après, on l'utilise comme valant aussi bien pour l'homme que la femme. Et là, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un manque de logique, mais ce n'est qu'à partir du chapitre 4 qu'on va lui donner un nom particulier, un nom propre qui sera Adam. C'est-à-dire, on utilise le terme sans article. Sinon, jusque-là, je crois que Chouraki traduit toujours l'Adam. Hein? Moi, j'ai traduit par l'humain pour garder le contact entre humain et humus, hein, la terre. Mais on n'a pas fini la réflexion, vous savez, il faudra revenir après. Mais voilà tout de même un certain nombre de choses qui sont dites. C'est pourquoi, donc il la reconnaît, il la reconnaît comme étant, hein, comment dirais-je, oui, je dis collant, mais c'est un peu ce qui arrive. Hein. Il laissera l'homme, son père et sa mère, donc il y a une relation plus forte que la relation au père et à la mère, et il s'attachera, le terme s'attacher c'est coller précisément, davak. Hein? Il s'attachera, il collera à sa femme, et ils seront unique chair, homme et puis femme ici. Et puis, hein, chose étrange, ça correspond à ce que Tony vient de dire, et ils étaient eux deux nus, l'humain et sa femme. Hein. On attendrait ici l'homme et sa femme. Hein, il dit l'humain. C'est en même temps l'humanité entière est dans cette situation de nudité. Et en même temps, c'est une situation de l'un en face de l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette nudité? La nudité, être nu, c'est être sans protection. Être nu, c'est être vulnérable. C'est être éventuellement en état de manque, de limite. Et c'est pourquoi la nudité va aussi exprimer, connoter en tout cas, sinon exprimer, connoter le péché, la faiblesse. Ici, la nudité est exposée, elle est. On est vulnérable, l'humain et sa femme. Et ils ne se faisaient pas honte. Ils n'avaient pas peur l'un de l'autre. Ils sont en extrême confiance l'un par rapport à l'autre. C'est ça, ne pas avoir honte, c'est être en confiance. Le contraire de honte, c'est la confiance. Et ils ne faisaient pas honte. Vous avez encore cela dans le chapitre 21e de Saint Jean. Lorsque, après la résurrection, la pêche dite miraculeuse, là, la résurrection sur le bord du lac, lorsque Jésus s'approche de Pierre et de Jean et des autres là, qui sont dans la barque en train de pêcher, eh bien, quand Jean dit à Pierre, non, c'est pas Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il mit son vêtement car il était nu, puis il se jette à l'eau. Curieux, hein? Les pères de l'Église, évidemment, se sont demandé, mais quel vêtement est-ce qu'il met pour cacher sa nudité? Et qu'est-ce que c'est que sa nudité? Qu'est-ce que c'est que sa nudité, évidemment? Sa nudité, vous comprenez bien, il était pêcheur, il avait nié son maître, il était nu. C'est évident. Peut-être pas pour nous, mais pour eux, c'est évident. Et alors, quel vêtement voulez-vous bien qu'ils mettent? Et n'oubliez pas que Jésus a donné son vêtement étant sur la croix. Hein? Alors, pour les pères de l'Église, c'est tout simple. Il met le vêtement du pardon de Dieu sur lui et il passe à travers l'eau qui lui rappelle son péché pour arriver jusqu'à Jésus. Vous voyez comment on travaille, hein, dans les pères de l'Église? La symbolique travaille.
Le sens premier.
Pardon?
Et le sens premier.
Sens?
Et le sens premier, parce que tu nous donnes le sens quatrième.
Mais le sens premier, c'est le sens, bon, il est nu, et il met son vêtement, il met son panier, il va à l'eau, je veux bien. Mais ça ne veut rien dire, ça. Saint Jean ne le dirait pas s'il n'avait un sens second derrière la tête. Un sens premier n'est jamais unique dans la Bible. Si c'était pour le sens premier, comme disent les pères de l'Église, Origène notamment, il dit, si c'était pour dire le sens premier, il ne faudrait pas de Bible. C'est la vie de tous les jours. Mais on le raconte parce qu'il y a un sens second. Mais ce sens second est donné entre les lignes pour qu'on le découvre et pour qu'on ne croit pas qu'on l'a avalé tout de suite. Il faut qu'il y ait vis-à-vis du sens ce que Adam fait vis-à-vis de la femme, une contemplation. Il faut qu'il le reçoive au-delà de sa léthargie. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit. Mais qu'est-ce que le texte veut dire? Qu'est-ce que le texte veut dire? Faut pas... Évidemment que si vous regardez, mais j'aime beaucoup les représentations comme ça, hein, où on voit une Madame Ève sortir justement du côté d'Adam endormi. J'aime beaucoup. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai sur le plan matériel. Mais c'est beaucoup plus vrai que ce plan matériel. Ça veut dire que, comme il se donne... Mais oui, mais voyez, je ne dirai jamais à un enfant que ce n'est pas vrai. Parce que ça, c'est faux de lui dire que ce n'est pas vrai. Le texte nous dit cela. Et donc, c'est à travers le texte qui dit cela qu'il faut comprendre un plus du récit. Comment est-ce que tu sors, toi, du ventre de ta maman? Et ça, c'est vrai. Tu sors du ventre de ta maman. Et c'est évidemment l'image qu'il y a là derrière. Et donc, qu'est-ce qui apparaît là derrière, hein? C'est déjà un tout petit peu l'image, ici, c'est l'homme qui va faire naître la femme, pourrait-on dire. Et puis on va voir que c'est la femme qui va faire naître l'homme. Il y a une réciprocité. Et ça est déjà présent dans l'image. Et donc ils sont nus, ils sont vulnérables. Est-ce que tu les as créés avec des vêtements ou sans vêtements, vous comprenez? La nudité veut dire autre chose que la simple nudité physique. Et cependant, on dessine, hein, généralement Dieu habillé, face à Adam et Ève nus. Et c'est beau tout ça. Moi je dirais, cette littéralité est extraordinaire, pourvu qu'on sache que cette littéralité est un texte nu que nous devons revêtir. Que nous devons revêtir, justement, par notre réflexion. Et le serpent était nu, rusé. On utilise le même terme. Plus que tout vivant du champ qu'avait fait le Seigneur Dieu.
Mais Jean, le texte dit lui-même, il pointe l'oreille, hein, le verset 24. Il dit très bien pourquoi on le raconte.
Ils sont uniques, hein. Ils font une unique chair. Hein.
Il ne s'agit pas de divorcer, parce qu'ils se cachent en
dessous. Ah, tout à fait. Et Jésus va reprendre, mais bien sûr. Et Jésus va reprendre cela.
L'intention affleure clairement.
Dans le feu de la création, du Dieu créateur, dit Jésus, quand on l'interroge sur le divorce, hein, dans le vœu du Dieu, il n'en était pas ainsi. Oui, au commencement.
Je voudrais peut-être revenir à ceci, justement. Pourquoi, au fond, dans cette image de la création, l'humanité n'a pas été représentée par la femme? Puisque on aurait pu penser que, étant donné l'expérience, justement,
oui, c'est exact. C'est exact. Mais l'humanité est d'abord posée comme, je dirais, indistincte homme et femme. Et le premier texte, c'est pas pour rien qu'il met le premier texte, chapitre 1, verset 26, hein, l'image de Dieu, c'est homme et femme. Il ne veut pas marquer de préséance de l'un par rapport à l'autre. Oui.
Peut-être justement pour indiquer que ce point de départ qui échappe à l'homme, ouais, n'est pas du même type que tous les engendrements qui vont suivre.
Exactement. Exactement. Il n'est pas du même type. C'est Dieu qui le présente. Tout à fait. Je crois que c'est important aussi. Et voyez, ce texte est évocateur. Hein. Il y a des pourquoi qui sont de plus en plus suscités. C'est très bon. Très bon. Et alors, regardez ce que le serpent dit. Et ici, il faut bien voir qu'il y a deux langages. Il y a le langage en C. Ah oui. Et puis, il y aura le langage en C prime. Le langage du serpent, ici, le dialogue du serpent, auquel va faire pendant un dialogue de Dieu, qui va marquer la fausseté, le mensonge du langage serpentin. Le serpent était nu, rusé, plus que tout vivant du champ qu'avait fait le Seigneur Dieu. Il dit à la femme, certes, il a dit Dieu, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Le serpent est menteur. Il tient un langage différent de celui de Dieu. Il ne répète pas exactement. Mais il sait évidemment ce que Dieu a dit. Pourtant, c'est à l'humain qu'il a parlé. Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et il met l'accent sur l'exclusion ou la limite. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, à l'exception de. Et il dit, vous ne mangez pas de tout. Donc, il met l'accent, il focalise vraiment la chose sur la limite. Comme la nudité, d'ailleurs. La nudité marque la limite, la spécificité de l'homme et la femme, et en même temps sa limite. Je suis spécifique, je ne suis pas l'autre, je ne suis pas tout. Eh bien, le serpent va en quelque sorte être l'image de la limite. La naissance, hein, et la mort de l'homme, son destin limité. Mais il est vraiment focalisé, grossi. Il n'y a plus que la limite.
Alors que la limite signifie et symbolise la créature face à son créateur illimité, ici on ne regarde plus que cela. La femme d'ailleurs corrige, s'empresse de corriger. Du fruit d'arbre du jardin, nous mangeons. Mais, dit-elle, hein, du fruit de l'arbre qui est au milieu, du fruit de l'arbre, elle ne dit pas des arbres, qui est au milieu du jardin, il a dit Dieu, vous ne mangerez pas de lui, et puis elle ajoute, et vous n'y toucherez pas. Ça, c'est un peu pour elle. Elle se dit, elle, moi, je ne dois pas y toucher. Si on ne peut pas manger, on ne peut pas y toucher. De peur que vous ne mouriez. Donc elle redit un peu les choses, pas exactement de la manière dont Dieu l'a dit à l'humain, mais enfin voilà. Est-ce qu'il y a une déperdition de connaissances en passant par un intermédiaire? C'est pas dit. Et il dit à le serpent, la femme, donc il utilise un langage opposé à celui de Dieu. Dieu dit, vous ne mourrez pas, il dit, non, vous ne mourrez pas. Voilà. On utilise le langage opposé. Et comme la liberté, vous voyez, quand je ne regarde que ma limite, j'utilise un langage opposé à celui de Dieu. Je veux savoir mieux, comme nous disons. Et alors, il introduit ici quelque chose de nouveau. Vous ne mourrez pas. Mais alors, il a un argument. Car il connaît Dieu qu'au jour où vous mangerez de lui, s'ouvriront vos yeux et vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. Il introduit une suspicion sur Dieu qui est comme si Dieu était jaloux. Jaloux de ce qu'il possède. Il possède la connaissance du bon et du mauvais et il ne veut pas la donner. Comme si la connaissance du bon et du mauvais, Dieu se la réserverait. Si comme la, c'est comme si l'arbre qui est au milieu du jardin était l'apanage, la réserve de Dieu, qui est défiant de l'homme. Alors que jusqu'ici, le texte a montré la confiance de Dieu vis-à-vis de l'homme, le serpent introduit une suspicion par rapport à cette confiance. Il met la défiance. Et la défiance, en regardant, et en regardant d'une manière unique, la limite. Quand je regarde ma limite, je fais comme si Dieu se réservait l'au-delà de la limite. C'est une vision que l'homme se donne de Dieu, celle du serpent. Quand il n'est plus, celui qui dépend, qui se reçoit de Dieu. S'ouvriront vos yeux. Et vous serez comme Dieu, qui peut être, comme en hébreu c'est toujours un pluriel, et leur hymne, c'est la divinité. Vous serez comme Dieu, vous pouvez écrire avec un X ou sans X. C'est selon ce que vous voulez. Et vous serez comme Dieu, connaissant bon et mauvais. Et comme c'est vrai que Dieu a la connaissance du bon, et il sait bien que ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il n'a pas dit que c'était mauvais. Il dit qu'il y a un manque. Et le serpent introduit justement cette mise en question de Dieu et de son langage. Pourquoi est-ce qu'il vous a parlé comme ça? Qu'il était jaloux, il ne voulait pas perdre ce qui est sa spécificité. Il y a encore peut-être, derrière cette formulation, un relent de ce que vous trouvez dans l'épopée de Gilgamesh, où l'homme n'est que l'homme. Et il ne peut pas mettre la main définitivement sur la plante de la vie. Et voilà que, à ce moment-là, ayant changé son langage, ayant pris le langage du serpent en quelque sorte, elle vit la femme que bon. Bah tiens, elle connaît le bon. Elle vit que bon. Elle arbre à manger et appétissant lui pour les yeux. Et convoitable l'arbre pour devenir intelligent.
Et de nouveau, il y a un terme qui apparaît ici, c'est la convoitise. Tout se succède en chaîne. Et dans la mentalité de la Bible, vous avez le désir. Le désir, c'est une bonne chose, le désir. Hein? Le désir, c'est cette capacité d'être et de plus être qui est en l'homme. C'est le dynamisme de l'homme, le désir. Et le désir est en fait constitué par la présence de Dieu dans l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Mais ce désir peut être deux choses, puisqu'il s'adresse à une liberté. Un désir est en moi. Et il peut être regardé comme don de Dieu. Dans ce cas-là, le désir est appelé promesse. Abraham désire une terre et il désire une descendance. Et il reconnaît ce désir qui est en lui comme une promesse venant de Dieu. Il reconnaît son désir comme étant d'abord celui de Dieu en lui. Si vous ne le regardez pas comme une promesse ou si vous supprimez Dieu, hein, ce désir est regardé simplement à partir de moi, en solitaire, en seul, il devient convoitise. Voilà la convoitise. La convoitise, c'est le désir pris pour moi. Le désir est fait pour un plus être, il est pris pour une reconnaissance de Dieu. Vous voyez, quand l'homme reconnaît la femme comme celle qui lui est donnée, os de mes os et chair de ma chair, eh bien, il laisse son désir vivre dans la contemplation. C'est normal. Si au lieu de contempler, je prends pour moi, je veux mettre la main dessus, c'est la convoitise. Et je reçois ou je prends. Dieu a donné, et vous allez voir que l'homme va prendre. Et pourquoi